Alors, un bref aperçu du projet Debian pour commencer. Debian, c'est plus de 1000 développeurs officiellement. Il y a largement plus de contributeurs à Debian. On l'estime à quasiment 2000 personnes. Toutes ces personnes sont bénévoles, dans le sens où elles ne participent à Debian que dans leur intérêt personnel et pas pour. Comment dire, elles ne retirent aucun bénéfice pécunier de leur participation à Debian. En revanche, il y a des gens qui sont payés par leur employeur pour participer à Debian. Ça arrive. Ce sont des développeurs répartis partout sur la planète, avec une grosse concentration quand même en Europe et en Amérique du Nord, mais pas mal de développeurs aussi au Japon, dans toute l'Asie, en Australie, beaucoup en Amérique centrale et du Sud. En plus d'être un projet, Debian, c'est aussi un produit qui est un système d'exploitation libre et gratuit. Je vais revenir un petit peu sur ce que ça signifie après. Il est vraiment complet, il y a 18 000 logiciels dans Debian et il est multiplateforme, c'est-à-dire qu'il va tourner sur un PC de bureau, mais aussi sur un ordinateur Macintosh et sur toute une variété d'ordinateurs un peu désuets ou des plateformes embarquées comme des téléphones portables ou des PDA. Et pour faire fonctionner tout ça, il y a aussi toute une infrastructure de développement avec des méthodes de communication liées à Internet, avec comment dire, toute une série de systèmes aidant l'utilisateur pour ses mises à jour, pour la résolution des bugs qu'il peut avoir sur son système. Tout ça est centralisé chez Debian pour rendre plus efficace le développement de la distribution Debian, du système d'exploitation. Alors, le plan de ma présentation. Mince alors. Ça marche. Oui. Je vais commencer par un historique du projet GNU, du projet Linux, ainsi qu'un historique de Debian, parce que Debian est très lié à GNU et à Linux, comme je vais l'exposer. Ensuite, je parlerai de l'organisation de Debian, d'une part d'un point de vue, je dirais, politique, et d'autre part d'un point de vue plus technique. Et enfin, je vais parler un petit peu de la relation que vous pouvez avoir avec Debian, non seulement en tant qu'utilisateur, mais aussi qu'en tant qu'utilisateur, je dirais, avancé, et même de contributeur, si le cœur vous en dit. Voilà, alors je vais commencer par un petit historique d'Unix. Unix, c'est au départ un système d'exploitation qui est devenu une multitude de systèmes d'exploitation à cause de certains événements qui sont passés dans les années 50 et 60. L'origine d'Unix est un système d'exploitation qui s'appelait Multics. Conjointement à ça a été créé le langage de programmation C, toujours dans les années 50. Ce qui s'est passé d'important dans les années 50 et qui a un petit peu provoqué la création d'Unix et de ses dérivés, c'est le démantèlement d'AT&T, qui possédait pas mal de droits sur Unix et à cause des lois antitrust, enfin, ou grâce aux lois antitrust, AT&T a été complètement démantelé et pas mal de ses filiales se sont retrouvées avec des droits sur Unix. Et chacune de ces filiales les a soit revendues, soit fait vivre Unix d'une certaine façon. Et ça a donné une espèce de diversification qui a vraiment commencé au début des années 80. Conjointement à ça, il y a eu la création du projet GNU, dont je vais parler un peu plus tard, pareil pendant les années 80. Et enfin, au début des années 90, en 91, le projet Linux a commencé. Et en même temps que le projet GNU commençait à vraiment se répandre, Linux a permis au projet GNU de toucher un public nettement plus large, notamment grâce à Internet et à ce qui s'appelle les distributions Linux. Ce sont des packages contenant Linux et les logiciels du projet GNU et des logiciels supplémentaires que je vais évoquer. Alors, en 83, le projet GNU est créé par Richard Stallman, un chercheur au MIT. C'est un projet qui est inspiré d'Unix, c'est-à-dire que c'est à la fois une copie et quelque chose d'un peu différent. D'ailleurs, ça se retrouve complètement dans le nom du projet, qui est un acronyme qui signifie GNU is not Unix. C'est-à-dire que Stallman a voulu créer quelque chose qui ressemblait à Unix, mais en déviant un petit peu, en améliorant des choses. Et la première brique par laquelle il a commencé, c'était un éditeur de texte qui s'appelait Emacs, qui s'appelle toujours Emacs, qui est toujours développé à l'heure actuelle. La deuxième chose dont il a eu besoin pour créer son système, c'était un compilateur qu'il a écrit aussi, qu'il a appelé GCC, qui existe toujours et qui est un des compilateurs les plus utilisés dans le monde. Et enfin, la troisième brique dont il avait besoin pour commencer à développer sérieusement le projet, c'était un débuggeur qu'il a créé aussi et qu'il a appelé GDB. Voilà. En marge de ça, il a créé ce qui s'appelle maintenant le mouvement Free Software, qui a des noms, des ramifications et des philosophies légèrement différentes suivant les gens qui vont en faire la pub. Mais en gros, il a créé une série de quatre règles qui énoncent les libertés qu'un être humain devrait avoir lorsqu'il utilise ou écrit un logiciel. Donc, ce sont les libertés qu'on retrouve pas forcément dans les logiciels, je dirais, commerciaux habituels. C'est la liberté de copier le logiciel. Ça, c'est extrêmement rare qu'on l'ait de manière habituelle. C'est la liberté de le modifier et surtout de redistribuer ces modifications à d'autres gens. Donc, Stallman, dans les années 80, a dit c'est vraiment injuste que les logiciels soient aussi chers, que si je corrige un problème, j'ai pas le droit d'en faire profiter mon voisin. Et il a basé toute une philosophie et un mouvement là-dessus. Il a créé ce qui s'appelle la Free Software Foundation, qui est une grosse fondation qui maintenant sponsorise le projet GNU et reçoit des dons d'un peu partout et fait du prosélytisme pour les logiciels libres. En 91, le projet Linux est lancé. Linux, en fait, c'est la brique qui manquait au projet GNU pour être complet. J'ai parlé de l'éditeur, de GCC, de GDB. Le problème de ces logiciels, c'est qu'ils doivent tourner sur un système d'exploitation. Et une grosse partie d'un système d'exploitation, c'est ce qu'on appelle le noyau. C'est une partie plus ou moins grosse du système qui va parler à tout le matériel qui est dans l'ordinateur, faire l'interface entre le disque dur et la mémoire, par exemple, parler à la souris. Toutes ces choses-là sont faites par un morceau qui s'appelle le noyau, et ce noyau n'existait pas encore dans le projet GNU, il était encore en projet, et ce qu'a fait Linus Torvalds, c'est qu'il a créé un noyau. Alors au début, il était extrêmement modeste, il disait, bon voilà, pendant mes études, je travaille sur un petit noyau. Dans le premier mail qu'il a envoyé à ce sujet, il disait, c'est vraiment pas quelque chose de professionnel comme GNU, mais bon, ça peut être sympa, regardez. Et finalement, ça a eu un succès énorme grâce à Internet et à toute une communauté qui s'est créée autour. Et aujourd'hui, c'est vraiment Linux qui est prédominant dans les systèmes qui utilisent tout le reste du projet GNU. Ensuite, très rapidement, à partir de 92, il y a eu l'apparition de ce qui s'appelait des distributions Linux, c'est-à-dire une version de Linux avec une version de GNU et d'autres programmes, une interface graphique, des choses comme ça, qui ont été compilés par quelqu'un. Parce qu'au début, Linux, c'était juste du code source. Il n'y avait pas de programme vraiment que vous pouviez faire tourner sur votre ordinateur. Il fallait le compiler soi-même, éventuellement l'adapter. C'était pas évident au début, d'où l'apparition des distributions qui ont permis de rendre ça accessible à beaucoup plus de gens. Alors, Debian est une de ces distributions que je viens d'évoquer, vraiment une des premières. La création de Red Hat, par exemple, qui est un nom très connu dans le monde Linux et du logiciel libre, c'est 95. Donc, même si le projet Red Hat lui-même date aussi de 93, la création de la société Red Hat, c'est 95. Donc Debian, ça a commencé vraiment très tôt par rapport aux autres distributions. C'est pareil, un peu comme Linux, c'est un étudiant qui a voulu créer un projet pendant son temps libre Et s'est dit, ben, si je trouve des gens sur Internet qui veulent travailler avec moi, ensemble, on va pouvoir faire quelque chose de vraiment encore mieux. Donc au début, c'était une dizaine de bidouilleurs en 93. En 94, c'était quasiment une centaine déjà. Si bien que le projet GNU s'est mis à sponsoriser Debian, parce qu'ils se sont rendus compte que les intérêts étaient assez liés entre GNU et Debian. Bon, après, ça s'est un petit peu froissé, je dirais, mais au début, il y avait un gros enthousiasme du côté de GNU et de Debian pour travailler ensemble. En 95, il y a eu la création de deux outils importants. Le premier, c'est Dpackage. C'est un outil qui permet d'installer des packages. Un package, en français, un paquet, je vais revenir sur ce que c'est. En gros, c'est une brique logicielle que vous installez sur votre système, que vous pouvez mettre à jour indépendamment des autres paquets installés, que vous pouvez supprimer avec des systèmes de dépendance entre eux, etc. Donc ça, c'était vraiment une grosse avancée dans le monde des distributions Linux. Au début, une distribution, c'était plusieurs disquettes. Au bout d'un moment, c'est devenu des CD-ROM avec plein de logiciels, et tous ces logiciels étaient installés sur votre disque dur, même ceux dont vous n'aviez pas besoin. Et parfois, il fallait faire un choix. Il y a deux logiciels qui remplissaient le même rôle, et ben, vous ne pouviez pas avoir les deux installés en même temps pour des raisons variées. Et il fallait que la distribution décide, ben, soit dans notre distribution, on va mettre le logiciel A, soit le logiciel B, on ne pouvait pas mettre les deux. Avec l'arrivée des paquets, ça, c'est devenu possible. D'installer soit A, soit B, mais de distribuer les deux en même temps pour les distributions. Et on satisfaisait vraiment beaucoup plus de monde avec cette méthode-là. Ensuite, Debian a commencé à grossir, à sortir pas mal de versions. La première version officielle, c'était la version 1.1, parce qu'un distributeur de CD avait cru que la version 1.0 était sortie et s'était mis à le distribuer partout, alors que ce n'était pas du tout la version 1.0. Et au fil des années, la taille de Debian a grossi en termes de nombre de paquets. C'est allé de quelques centaines de paquets en 96 avec la première version à plus de 18 000 paquets avec la dernière version qui est sortie le mois dernier. Et conjointement au nombre de paquets, le nombre de développeurs travaillant sur Debian a évolué à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Bon, bien sûr, 20 fois moins de développeurs que de paquets, mais en gros, ce ratio est resté constant avec le temps. Donc si au début ils étaient une dizaine, maintenant ils sont plus de 1 000, et ce nombre grossit en permanence. Une particularité de Debian aussi, c'est qu'il y a pas mal de distributions qui sont basées sur Debian, qu'on appelle des distributions dérivées. Une des premières, ça a été une distribution qui s'appelait Lindows OS, qui maintenant s'appelle Inspire pour des raisons de marque déposée. Ça ressemblait trop à Windows avant. C'est un monsieur qui s'appelle Michael Robertson, qui s'est dit, ben, Linux c'est bien, mais ça ressemble pas assez à Windows, et en plus quand on fait tourner Linux, c'est difficile de faire tourner des programmes Windows à côté. Donc je vais faire une distribution qui ressemble au niveau esthétique à Windows, et qui en plus permet de lancer des programmes Windows. Donc il a lancé cette distribution un peu particulière avec un émulateur Windows qui s'appelle Wine, qui existait sur beaucoup de distributions, mais qui là était très, très intégré au système. Ensuite, il a créé un système qui s'appelait Click and Run, qui est une méthode d'installation des paquets qui est extrêmement aisée pour l'utilisateur. Bon, c'est un exemple de distribution dérivée. Une autre distribution dérivée importante, c'est Knopix, qui est sortie en 2003. Il s'agit d'une version de Debian un peu modifiée pour tenir sur un seul CD et n'avoir pas besoin d'être installé sur votre disque dur pour fonctionner. C'est-à-dire que vous mettez votre CD dans l'ordinateur et ça démarre un Linux qui va détecter tout seul votre matériel, votre configuration réseau et toutes ces choses-là. Et ça va fonctionner sans rien installer sur le disque dur. Donc ce n'est pas une méthode extrêmement viable à long terme. En revanche, pour faire découvrir Linux et Debian à des gens qui n'ont pas envie de formater leur disque dur ou de faire de la place, eh bien, c'était vraiment quelque chose qui a permis un grand bond pour Debian et pour Linux en général. Après, il y a eu pas mal d'autres distributions sur le même principe. C'était pas vraiment la première, mais elle a eu vraiment un énorme succès. Enfin, en 2004, une autre distribution dérivée majeure a été créée, qui s'appelle Ubuntu, créée par Mark Shuttleworth, c'est un homme d'affaires sud-africain. Et lui, il s'est dit, il a fait un peu le même constat que Michael Robertson, c'est que Linux c'est bien, mais ça reste un petit peu austère et finalement les êtres humains normaux qui sont ni développeurs ni informaticiens bidouilleurs, ils ont toujours du mal à l'utiliser. Et il s'est dit, je vais faire ma propre distribution basée sur Debian, parce que Debian c'est la plus grosse, elle a une réputation de stabilité, il y a beaucoup de gens derrière, donc il y a très peu de risques qu'elle disparaisse du jour au lendemain. Pour plein de raisons, il s'est basé sur Debian et il a créé Ubuntu, qui est aujourd'hui vraiment la distribution la plus populaire. En 2007, on compte vraiment plus de 50 distributions dérivées vraiment en développement actif. Il y en a eu plusieurs centaines au cours du temps, mais il y a certains projets qui se lançaient. Bon, on va faire une nouvelle distribution basée sur Debian. Et 3 mois plus tard, plus personne ne s'y intéressait. Mais aujourd'hui, il y a vraiment plus de 50 dérivés qui existent. Alors parfois, c'est des déclinaisons, je dirais, métiers de Debian. Il y a par exemple Debian Med, qui est une version de Debian qui se focalise sur le milieu médical avec des logiciels de bio, avec des logiciels de compta spécialement pour le médical. Il y a aussi Debian Edu, qui est une distribution pour les lycées et les écoles, qui répond à des problématiques que peuvent avoir les écoles lorsqu'ils ont un parc informatique un peu vieux, avec des ordinateurs pas spécialement puissants. Et Debian Edu permet de mettre en place très rapidement un réseau d'écoles avec des applications distribuées, des choses comme ça. Il y en a vraiment tout un tas extrêmement intéressantes. Alors, je vais maintenant parler de Debian un peu plus précisément sur le plan de l'organisation. Debian repose sur ce qu'on appelle le contrat social, c'est-à-dire un engagement que prend Debian à ce que Debian soit toujours ce qui est décrit dans ce contrat social. Le premier point, qui est vraiment le plus important, c'est que Debian restera toujours libre, 100%, donc pas de concession du point de vue de Debian. Il y a un critère pour dire telle partie de Debian c'est libre ou pas, c'est ce qui s'appelle les Debian Free Software Guidelines, qui sont des espèces de conseils pour pouvoir juger si quelque chose est libre ou non. Alors libre, c'est au sens de Debian, mais aussi très proche du sens dont je parlais au sujet de Richard Stallman avant. C'est la liberté de modifier, de redistribuer, de redistribuer les modifications, etc. Debian a une espèce de série de tests pour juger si la licence d'un logiciel répond à ses libertés ou pas. Alors, il y a des concessions qui sont faites dedans. Par exemple, il y a des gens qui distribuent un logiciel et qui disent « Bon, ok, il n'y a vraiment pas de problème, vous pouvez revendre mon logiciel, vous pouvez le modifier, faire ce que vous voulez. Tout ce que je veux, c'est que si vous le modifiez, vous changiez le nom. » pour qu'on ne croie pas que c'est mon logiciel que vous êtes en train de distribuer. Donc ça, c'est une concession qu'il faut faire, qui est vraiment minime. On peut très bien, après, venir et dire « Oh là là, mes libertés sont bafouées, je peux faire tout ce que je veux, mais j'aimerais bien que le logiciel garde son nom. » Il ne faut pas non plus aller dans l'extrême, donc c'est pour ça qu'il y a ces guidelines, qui sont des guides, des espèces de conseils, pour dire si une licence est acceptable pour Debian ou pas. Ensuite, parmi les autres engagements de Debian, il y a la contribution à la communauté. C'est-à-dire que Debian va prendre beaucoup de choses dans la communauté. Énormément du travail de Debian, c'est de l'intégration, c'est-à-dire qu'on prend un logiciel, on l'adapte à Debian et on le rajoute dans la distribution. Parfois, dans le processus, on va corriger des bugs, on va faire des améliorations. Et bien tout ça, Debian s'engage à le refournir à la communauté en général et à l'auteur original du logiciel en particulier. Ensuite, un autre engagement, c'est que Debian ne cachera pas les problèmes. C'est-à-dire que s'il y a un bug, même si c'est vraiment extrêmement honteux et qu'un programmeur débutant n'aurait jamais fait cette erreur, et bien on va quand même le dire. Notre base de données de bugs est complètement publique. Donc vous pouvez voir les pires erreurs que nous, développeurs Debian, avons pu faire. Mais vous pouvez aussi voir les problèmes les plus graves. ainsi que les solutions qui ont été apportées à ces problèmes. Tout est gardé, archivé, et vous pouvez accéder à tous les problèmes qu'il y a pu y avoir dans Debian depuis extrêmement longtemps. Un autre engagement, c'est que nos priorités resteront le logiciel libre et nos utilisateurs. Le logiciel libre, c'est parce que on ne se base de toute façon que sur du logiciel libre de par les Free Software Guidelines, mais en même temps, on va essayer de promouvoir des solutions libres là où il pourrait y avoir une solution propriétaire qui soit peut-être meilleure sur certains points. Mais Debian va toujours dire, bon, cette solution-là, elle est libre, donc sur un certain point, c'est mieux. Une autre de nos priorités, c'est nos utilisateurs, parce que Debian n'existe pas que pour Debian, c'est-à-dire que les développeurs Debian ne font pas seulement leur travail pour eux-mêmes et pour les autres développeurs, mais on essaie quand même d'être à l'écoute de nos utilisateurs et de faire des choses qui leur plaisent, qui permettent de s'adapter à leurs besoins et qui, au final, font qu'on a de plus en plus d'utilisateurs. Et enfin, quand même, on va reconnaître le droit de nos utilisateurs. De toute façon, Debian n'aurait pas son mot à dire là-dedans, mais Debian reconnaît que nos utilisateurs peuvent avoir quand même besoin de logiciels non libres, parce qu'il n'existe pas de logiciel libre équivalent ou qui a telle fonctionnalité. Et on ne va pas dire « Ah ben désolé, tu utilises du logiciel non libre sur ta Debian, donc on ne peut pas t'aider, c'est mal. » Ce qu'on va dire, c'est « D'accord, bon, c'est quand même pas très bien, parce que ce logiciel, tu ne peux pas le donner à tes amis, tu ne peux pas le modifier. Nous, on ne peut pas le modifier pour essayer de voir où sont les problèmes. Mais quand même, c'est vrai, tu en as besoin. » Donc il y a une partie des serveurs FTP de Debian qui contiennent certains logiciels non libres dont nos utilisateurs ont vraiment besoin dans certains cas. Notamment des drivers pour cartes vidéo. Il y a certains drivers pour cartes vidéo qui sont non libres malheureusement. Et pour autant qu'une carte son, c'est pas trop grave. Quoique pour certains ça peut l'être, mais c'est pas dramatique si on n'a pas de son sur un ordinateur. Si on n'a pas d'image, c'est un peu plus gênant. Donc on admet vraiment qu'il peut y avoir des logiciels non libres qui sont indispensables à nos utilisateurs. Au niveau de la structure, Debian est formé de développeurs qui sont les membres. Et derrière, il y a une espèce d'association ou d'organisation à but non lucratif qui s'appelle SPI, Software for the Public Interest, qui chapeaute un petit peu Debian et s'occupe de gérer ses fonds. Les fonds de Debian proviennent quasiment exclusivement de dons, des utilisateurs de Debian qui font des dons au projet pour... parfois pour des buts précis. Ils vont par exemple sponsoriser la rencontre annuelle de Debian qui s'appelle DebConf. Mais pour plein d'autres raisons, des gens peuvent vouloir donner de l'argent à Debian. Il y a des espèces de mécènes comme ça, qui parfois ont un intérêt dans la chose, qui vont donner de l'argent à Debian. Donc Debian elle-même n'a pas de structure légale. C'est SPI qui s'occupe de gérer l'argent de Debian. Ensuite, comme je le disais, il y a les membres de Debian qui sont ce qu'on appelle des développeurs. Alors, développeurs, c'est vraiment au sens large. Il y a des membres de Debian qui n'ont jamais programmé au moment où ils sont rentrés dans Debian, mais qui ont fait pas mal d'autres boulots absolument fantastiques. Si, si, c'est lui aussi. Mais bon, on les appelle développeurs pour des raisons historiques. Parfois, ça revient sur le tapis et puis on dit que c'est trop restrictif et puis ça fait peur aux gens qui voudraient contribuer à Debian, etc. Mais bon, je crois qu'on va avoir du mal à se débarrasser de ce terme développeur. Ces gens-là, comme je disais, ils sont partout dans le monde, sur tous les continents, et ils parlent des langues différentes, et ils sont pas forcément mobiles, ils se voient pas physiquement, ou alors très rarement. Il faut quand même qu'on puisse savoir que lorsqu'on parle à quelqu'un, ou lorsqu'il nous envoie un morceau de programme, ce soit quelqu'un en qui on ait confiance, sans forcément l'avoir vu à un moment donné. Ça fait extrêmement longtemps que je suis dans le projet Debian, Et j'ai dû rencontrer sur les 1000 développeurs, peut-être 200, sur les presque 10 ans que je connais des développeurs Debian. Donc tout le monde ne se connaît pas, c'est impossible. En revanche, on a un système de clés privées cryptographiques qui permet d'authentifier les autres développeurs Debian. C'est-à-dire que lorsqu'on se rencontre en vrai, on va regarder la carte d'identité de l'autre, ou si on a suffisamment confiance, on atteste de son identité. Et on émet ce qui s'appelle une signature cryptographique qui dit, bon, cette personne, je l'ai rencontrée, et j'atteste qu'elle est qui elle prétend être, et en plus, c'est quelqu'un de Debian. Donc, ensuite, lorsque les développeurs Debian envoient des emails à caractère un petit peu, je dirais, sensible, ça peut être pour des problèmes de sécurité dans Debian ou simplement pour donner une instruction qui pourrait être falsifiée par quelqu'un d'autre, eh bien, il va signer cryptographiquement son mail avec cette clé qu'il a. Et ça va être pareil lorsqu'il va envoyer un logiciel dans Debian. Et tous les autres développeurs vont pouvoir vérifier que c'est bien la clé de cette personne qui a été utilisée. Donc parfois, ça paraît un peu comme du pinaillage, parce que finalement, c'est des gens avec qui on travaille tous les jours, même si c'est que sur Internet. Mais c'est vraiment, vraiment indispensable de fonctionner avec un système de confiance comme ça. Pour une structure aussi grosse que Debian, on ne peut vraiment pas s'en passer. Ensuite, dans Debian, il y a une constitution qui régit un petit peu l'organisation du projet, la prise de décision, la résolution de conflits. Alors c'est une constitution qui est assez ancienne. Elle ne date pas du début du projet. Au début, quand on est 10 personnes, on n'a pas besoin d'un document qui régit ça. Et même après, on a plutôt tendance à rejeter tout ce qui est un peu bureaucratique. Mais quand on commence à être 200 personnes, il faut quand même définir qui est le chef, quand même, qui décide de ce qu'on fait et comment on résout les conflits. Alors la Constitution définit ce qui s'appelle le leader, qui est élu tous les ans. Du mois d'avril à avril 2008, c'est moi-même. Il est élu par tous les développeurs qui décident de voter. Tous les développeurs ne décident pas, mais quasiment la moitié vote pour le poste de project leader quand même. Ensuite, il y a le secrétaire qui est nommé par le leader. Le secrétaire et le leader ont un petit peu un poste de porte-parole, c'est-à-dire qu'ils sont habilités à parler au nom de Debian, ce qui ne veut surtout pas dire que les autres développeurs ne sont pas habilités à parler, mais pour certains communiqués de presse particuliers, c'est l'autorité du leader et du secrétaire qui importe. Ensuite, il y a ce qui s'appelle des délégués, qui sont nommés par le leader aussi, et qui peuvent remplir des rôles soit techniques, soit non techniques, c'est-à-dire par exemple l'équipe de presse. L'équipe de presse est déléguée par le leader. Le leader dit, bon, moi, je suis le porte-parole de Debian, mais je n'ai pas le temps de m'occuper de tout. Donc, je délègue ces pouvoirs que j'ai à l'équipe de presse. Et donc, il y a des gens qui s'occupent de faire les communiqués de presse de Debian, qui parfois vont à des conférences. Ce n'est pas forcément l'équipe de presse qui fait ça. Et à côté de ça, il y a des postes plus techniques. Il y a les administrateurs des serveurs de Debian, qui sont nommés par le project leader. Il y a les administrateurs de l'archive qui contient tous les paquets de la distribution. Il y a la personne qui s'occupe de valider ou non l'entrée d'un nouveau développeur dans le projet. Tous ces gens-là sont délégués par le leader. Et enfin, il y a une autre instance qui est un petit peu je dirais notre cour des sages, qui s'appelle le comité technique, qui s'occupe de résoudre des conflits techniques ou de statuer sur des questions techniques qui n'ont pas forcément de réponse rationnelle. Parfois, il y a deux façons de résoudre un problème qui sont mutuellement exclusives et on est obligé de choisir l'une des deux. Et lorsque aucun argument ne peut trancher d'un côté ou de l'autre de manière vraiment nette, on fait appel au comité technique qui va statuer sur une question technique un peu particulière. Alors ça, c'est pour la théorie, la constitution, etc. Après, dans la pratique, il y a des organisations de fait qui se créent à l'intérieur de Debian, notamment des équipes qui ne sont pas forcément déléguées par le leader. Au contraire, c'est des équipes de gens qui ont travaillé ensemble sur un sujet ou un autre et qui décident de continuer à travailler sur une partie précise de Debian. Il y a par exemple l'équipe qualité, l'équipe sécurité, l'équipe release qui s'occupe de préparer les nouvelles versions de Debian. Et l'entrée dans ces équipes, la plupart du temps, se fait par cooptation, souvent au mérite, c'est-à-dire que quelqu'un qui a travaillé pendant un an sur des bugs de qualité ou qui a travaillé pendant longtemps sur la correction de bugs de sécurité, bah, automatiquement, ils vont être bien vus pour faire partie de l'équipe de sécurité, de l'équipe qualité, etc. Ensuite, il y a aussi pas mal de développeurs qui sont non-membres. Alors, soit développeurs, soit... comme je vais l'expliquer, des contributeurs qui aident énormément Debian sans forcément savoir programmer. Alors, pour que ces développeurs deviennent des développeurs officiels, il y a une procédure qui existe, qui est la procédure nouveau mainteneur, nouveau développeur, qui est une espèce de parcours du combattant, où on va poser des questions aux développeurs, vérifier qu'il est bien engagé, qu'il comprend ce que c'est le logiciel libre, qu'il a envie de contribuer à Debian et qu'il a déjà fait du travail qui mérite d'être noté. Mais on n'est pas obligé de faire cette procédure pour contribuer à Debian. Il y a déjà la possibilité d'être ce qu'on appelle sponsorisé, c'est-à-dire qu'on fait une correction dans un paquet de Debian, on fait une nouvelle version du paquet, enfin on fait un nouveau paquet qui fonctionne mieux que le précédent. Il se peut que quelqu'un dans Debian accepte de vérifier que ce qu'on a fait est du suffisamment bon boulot et l'envoie dans l'archive officielle de Debian. Alors ça, c'est très récent comme pratique. Enfin récent, ça a quand même 4 ans, 5 ans maintenant. C'est devenu nécessaire parce que dans Debian, il y a une espèce de principe qui fait que lorsque quelqu'un s'occupe d'un paquet, bah, il s'en occupe presque pour toujours, ou jusqu'à ce qu'il décide qu'il n'a plus envie de s'en occuper. Et parfois, ça n'avance pas assez vite, parce que les gens font beaucoup de choses en même temps, ils sont débordés, et puis bah, l'intérêt qu'ils prêtent au paquet dont ils sont censés s'occuper n'est pas forcément équivalent à l'intérêt qu'ils prêtent leurs utilisateurs, ou que peuvent y prêter d'autres développeurs à côté. Donc il y a une espèce de sentiment de propriété des paquets, qui commence à disparaître un petit peu avec cette notion de sponsoring, avec la notion d'équipe et quelques autres procédures qui sont apparues dans Debian. Alors, au sujet des équipes, n'importe qui peut rejoindre une équipe. Il ne pourra pas faire ce pour quoi il est nécessaire d'être développeur en Debian, par exemple envoyer un paquet dans l'archive Debian, mais il pourra corriger des bugs dans l'outil de travail collaboratif utilisé par l'équipe, par exemple, des outils comme CVS, SVN et autres. Il pourra participer à la résolution de bugs en envoyant des patchs simplement, qui seront après intégrés par le développeur officiel qui s'occupe du paquet, ou les développeurs officiels lorsqu'il s'agit d'une équipe. Donc vraiment, pour les contributeurs, il n'y a pas forcément besoin d'être membre officiel de Debian pour contribuer et faire du travail apprécié et utile, mais ça aide quand même sur certains points, notamment lorsque il y a un processus de blocage dû à des gens qui n'ont pas la même gestion de priorité que le développeur qui veut contribuer. Alors, je vais parler maintenant du fonctionnement de manière un peu plus technique. J'ai beaucoup parlé de paquets. J'ai expliqué qu'un paquet, c'était une brique logicielle. Alors, cette brique logicielle, elle peut contenir soit un programme tout fait qui fonctionne indépendamment du reste, soit une bibliothèque de fonctions, ce qu'on peut appeler aussi parfois librairie, soit de la documentation. La documentation, ça peut aussi être dans un paquet, parce qu'on peut vouloir installer la documentation d'un logiciel ou d'un protocole. Ces choses-là, on les met aussi dans des paquets, pour que les utilisateurs Debian aient un seul endroit pour récupérer tout ce qu'ils pourraient avoir envie d'installer sur leur ordinateur. Un paquet, c'est installable et désinstallable facilement, grâce à un outil qui s'appelle Aptitude, et qui utilise de manière un peu cachée, toujours le logiciel dpackage dont je parlais tout à l'heure, qui date vraiment des débuts de Debian. Ensuite, plus important, un paquet, c'est aussi intégré. C'est-à-dire que vous avez un répertoire dans votre ordinateur, dans votre Debian, où il y a quasiment tous les programmes que vous pouvez lancer. Ben, si vous installez un nouveau paquet, vous pouvez être sûr que le programme que vous installez va être installé dans le répertoire dans lequel se trouvent vos autres programmes. Il ne va pas être disséminé partout, à des endroits que vous allez être obligé de chercher à droite et à gauche. Donc ça, c'est au niveau très bas de l'installation. Et ensuite, la plupart des paquets vont aussi installer une icône, un raccourci pour votre programme, que vous pourrez aller trouver dans un menu sur votre bureau. Toutes ces choses-là sont des choses qui souvent sont rajoutées par le développeur Debian lorsqu'il fait un paquet et contribuent à l'homogénéité et à l'intégration de tous les paquets de Debian. Et enfin, une chose importante, c'est qu'un paquet Debian peut être modifié grâce à ce qu'on appelle le paquet source, c'est-à-dire la partie qui a permis de créer le paquet que vous installez. Si vous modifiez cette partie-là et que vous répétez les règles de construction du paquet, vous arrivez à un paquet que vous pouvez installer sur votre ordinateur qui est modifié avec les modifications que vous voulez. Alors, ça, c'est quelque chose qui est souvent réservé aux développeurs, mais parfois vous voulez simplement, je sais pas, changer le nom du paquet, ben ça vous pouvez le faire en modifiant le paquet source. Enfin, il y a des choses qu'on peut avoir envie de faire sans forcément être développeur, ou par exemple changer l'icône d'un programme. Si vous changez l'icône du programme sur votre disque dur, ben elle est changée chez vous, mais pas chez les autres. En revanche, si vous changez cette icône dans un paquet, après vous allez pouvoir redistribuer ce paquet à d'autres gens, et les autres gens qui vont installer ce paquet vont avoir aussi la nouvelle icône que vous avez faite, qui est plus belle que l'autre, ou plus intelligente dans ce qu'elle représente. On peut trouver plein de raisons à changer un paquet, même si on n'est pas développeur soi-même. Je vais détailler un petit peu ce qu'il y a dans un paquet source. Alors, un paquet source, ça contient les sources d'un logiciel. Alors, les sources, c'est le code qui a été écrit par le programmeur, plus toute une série de données supplémentaires qui permettent de compiler ce code, d'en faire un programme complet à la fin. Alors, soit elles sont téléchargées sur Internet, sur le site web du développeur par exemple, soit ce sont des sources créées par Debian, par le projet lui-même. Par exemple, l'outil dpackage, au début, il n'était utile que dans Debian. Personne d'autre n'avait vraiment d'utilité à faire tourner dpackage ailleurs que sur un système Debian. Donc celui-là, on n'allait pas le prendre sur Internet, on allait le prendre directement chez Debian. Ensuite, avec ces sources, il y a des informations de contrôle qui contiennent par exemple la licence du logiciel, la description du logiciel avec des mots-clés qui permettent de rechercher. Parce que parmi 18 000 paquets qu'il peut y avoir dans Debian, si vous cherchez un logiciel qui fait une certaine tâche mais que vous ne connaissez pas son nom, il faut bien un moyen pour aller trouver ce logiciel dans les 18 000. Donc on met des mots-clés dans la description du paquet qui rendent plus facile la tâche de recherche. Enfin, il y a des instructions de construction parmi ces informations de contrôle. C'est-à-dire toutes les règles qui permettent de répéter chez vous ce qu'a fait la personne qui s'occupe du paquet. Donc ça lance le compilateur, ça lance le linker sur tel fichier, etc. Ça va copier le fichier dans tel répertoire. Toutes ces instructions-là, on peut les refaire à la main, mais il vaut mieux les mettre dans une liste d'instructions de construction qui font partie de ces informations de contrôle qui sont dans le paquet source. Et aussi, ce qu'on peut trouver dans un paquet, ce sont des modifications apportées au logiciel lui-même. Par exemple, pour l'intégration, je parlais avant des répertoires qui sont toujours les mêmes lorsque vous installez un paquet. Il se peut que la personne qui a écrit le paquet, qui a écrit le logiciel qu'on met dans Debian, et bien chez elle, ce répertoire ne soit pas le même. Donc Debian ne peut pas installer ce paquet dans son archive s'il ne va pas s'installer au bon endroit. Ça va dérouter les utilisateurs et ça ne respecte pas ce qui s'appelle la policy Debian, qui est une espèce de liste de règles que doivent respecter tous les paquets. Donc rien que pour l'intégration, on peut avoir besoin de modifier le logiciel qu'on télécharge. Mais il se peut aussi qu'on veuille corriger des bugs qui n'apparaissent pas sur d'autres systèmes, qui n'apparaissent que sur Debian, mais aussi des bugs qui n'ont pas encore été vus par l'auteur principal, ou des bugs qui ont été vus et corrigés, mais l'auteur du logiciel n'a pas encore fait de nouvelle version. On va quand même le corriger en avance dans Debian, parce qu'on peut le faire et parce qu'il vaut mieux avoir un logiciel avec moins de bugs. Mais ça peut aussi être des logiciels qui ne sont plus maintenus. Donc ils sont dans Debian, mais l'auteur du logiciel ne s'y intéresse plus, ne fait plus de nouvelles versions, ou il a complètement disparu, il est injoignable. Là aussi, la personne qui s'occupe du logiciel dans Debian va être obligée de corriger des bugs elle-même lorsqu'elle en est capable. Alors, j'ai parlé d'archives de Debian. Je vais détailler un petit peu en quoi ça consiste. Pour simplifier, c'est un site FTP sur lequel il y a tous les paquets de Debian. Alors à chaque fois, la dernière version, parce qu'on ne va pas tous les garder, ça ferait beaucoup trop de place sur ce site FTP. Néanmoins, les anciennes versions sont conservées sur un site qui sert un petit peu d'historique de Debian. Mais dans l'archive elle-même, il n'y a que les dernières versions des paquets, qui ont été vérifiés cryptographiquement par un système qui a la liste de toutes les clés cryptographiques des développeurs Debian. Et ce site FTP, il vous permet de mettre à jour votre système automatiquement. Vous tapez deux lignes de commande, vous cliquez sur une icône de mise à jour sur votre bureau, et ça va télécharger les mises à jour des paquets qui sont installés chez vous, et vous les installez. Et l'intérêt que ce soit un serveur FTP, c'est que n'importe qui peut mettre en place un serveur FTP et faire une copie de l'archive Debian et permettre de télécharger plus rapidement. L'archive principale, elle est aux États-Unis, mais il y a des miroirs de ce site FTP partout dans le monde. Il y en a vraiment des centaines. Et dans tous les pays, vous pouvez trouver un miroir de Debian qui contient exactement la même chose que dans l'archive officielle, mais qui va beaucoup plus vite en termes de téléchargement. Ensuite, une deuxième composante importante de l'infrastructure de développement de Debian, c'est ce qu'on appelle le bug tracking system. C'est un système de gestion de tickets qui contient tous les problèmes qui ont pu être trouvés dans des paquets Debian. Et pas seulement dans les paquets Debian, aussi sur le site web par exemple, il y a ce qu'on appelle un pseudo paquet qui s'appelle site web de Debian en gros. Et si vous trouvez une erreur sur le site web de Debian, bah vous allez utiliser la même interface que si vous trouvez un bug dans votre navigateur web dans Debian. Donc ça permet de centraliser. Parfois, si vous allez avec le navigateur de Debian sur le site web de Debian et qu'il y a un problème, par exemple des caractères qui n'apparaissent pas bien, ça peut être un bug dans votre navigateur, mais ça peut aussi être un problème sur le site web en question. Donc, si vous faites un rapport de bug, vous allez dire par exemple, bon ben c'est un bug dans le navigateur, les accents ne passent pas. Il se peut que le responsable du paquet du navigateur dise, ah ben non, c'est un problème sur le site web. Ce qu'il fait, c'est qu'il va changer le paquet correspondant au bug, et il va dire, ben non, c'est pas le paquet Firefox, c'est le paquet site web de Debian. Et automatiquement, les gens qui s'occupent du site web de Debian vont être mis au courant qu'il y a ce problème, et vont pouvoir essayer d'y remédier. Ça évite d'échanger des mails, d'essayer de savoir qui est responsable du site web aujourd'hui, qui lit la mailing list, trouver son adresse mail, etc. Tout ça, c'est de la communication qu'il faut faire, mais qui est centralisée dans notre outil de bug tracking system. Il y a des outils dans Debian qui permettent de faire un rapport de bug, où soit vous tapez sur la ligne de commande le nom du paquet qui a un bug, soit vous cliquez sur une icône d'un logiciel qui vous pose des questions, qui vous demande quel est le logiciel qui a un bug. Il va regarder s'il n'y a pas déjà quelqu'un qui a eu le même problème que vous, et des choses comme ça, et il va vous guider un petit peu dans la soumission d'un rapport de bug. Donc tous les utilisateurs sont encouragés, même si ils ne connaissent pas très bien leur système, à faire des rapports de bug lorsqu'ils voient un comportement un petit peu anormal. C'est pas forcément le plantage d'un programme, mais ce que j'énonçais, des accents qui passent mal sur un site web, ben ça peut être un bug. Donc tous les utilisateurs sont vraiment encouragés à faire des rapports de bug, quel que soit le problème qu'ils rencontrent. Ça aide beaucoup les développeurs. Alors, je vais évoquer un petit peu en quoi consiste le travail vraiment des développeurs. Donc, j'ai expliqué que les développeurs s'occupaient de paquets. Il n'y a pas que ça. C'est déjà un gros travail de maintenir, comme on dit, les paquets. Donc, il faut tester le logiciel. On ne va pas simplement le compiler et l'envoyer dans l'archive et espérer que les autres vont le tester. On va un petit peu le tester soi-même, corriger des problèmes qu'on peut rencontrer. Il faut s'occuper du bug tracking system aussi, parce que s'il y a des gens qui envoient des rapports de bugs dans le bug tracking system, ça veut dire que la personne qui s'occupe du paquet en question va recevoir ces rapports de bugs. Il faut qu'elle en fasse quelque chose. Donc soit elle va répondre à l'utilisateur, ben désolé, non, c'est pas un bug, t'as un problème dans ta configuration. Ou alors on va dire, ah ben c'est un bug dans le programme et je ne sais pas le résoudre, donc il va falloir contacter l'auteur du logiciel en amont. Et donc toute cette communication avec les auteurs du logiciel et avec les utilisateurs fait partie des tâches que doit remplir le mainteneur. Il y a aussi un travail sur la distribution elle-même, le développement des outils spécifiques, par exemple dpackage ou aptitude dont j'ai déjà parlé, ou le système d'installation de Debian. Tout ça, c'est des travaux qui sont faits aussi par les développeurs Debian. Et enfin, il y a ce que j'appelle communication au sens large, donc éventuellement venir parler à des conférences, des choses comme ça, mais simplement faire de la pub pour Debian, expliquer à des gens en quoi consiste Debian et essayer de les convaincre que ça peut remplacer leur système et que ça va les aider à être plus efficace ou que ça va résoudre certains problèmes qu'ils peuvent avoir avec leur système actuel. Ces choses-là, en termes de communication, sont importantes aussi et c'est la responsabilité de tous les développeurs Debian de faire un peu connaître le système et de lui faire de la pub. Alors, pour ce qui est de Debian et vous, pas mal d'entre vous sont en train de se faire installer une Debian sur leur ordinateur. Bon, ça veut dire que si vous avez fait cette démarche, vous aviez déjà un petit peu entendu parler de Debian. Si vous venez ici sans votre ordinateur et que ça vous intéresse quand même, vous pouvez l'installer de chez vous. C'est pas forcément beaucoup plus compliqué. Il suffit de télécharger une image d'un CD, de la graver, et ensuite vous mettez le CD dans l'ordinateur et tout marche tout seul. Vous allez sur cette adresse, debian.org/distrib. Et vous pouvez installer votre propre Debian sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi obtenir de l'aide par différents canaux, notamment des mailing lists. Il y a des mailing lists qui sont francophones si vous êtes un petit peu intimidé par l'anglais. C'est vraiment une bonne chose de parler anglais et de lire l'anglais lorsque l'on touche à Debian, parce que c'est la langue de communication principale entre les développeurs. Et beaucoup, beaucoup de problèmes résolus le sont par une communication en langue anglaise. Néanmoins, il y a une liste d'utilisateurs français de Debian à l'adresse que je cite ici. Il y a une liste francophone de développeurs aussi, et des listes pour beaucoup d'autres langues comme l'espagnol, l'allemand. Donc, si vous trouvez pas le problème que vous avez eu dans ces mailing lists, peut-être que dans les archives des autres langues, il se peut que quelqu'un d'autre ait trouvé la solution. Il y a aussi un wiki. Un wiki, c'est un site web qui se modifie par ses utilisateurs. Bon, je suppose qu'à l'heure actuelle, tout le monde connaît Wikipédia, donc connaît le principe. Il y a donc un wiki spécialisé dans Debian, à la fois pour les développeurs et les utilisateurs, avec de la documentation sur comment faire une tâche particulière, installer le Wi-Fi sur sa Debian, par exemple, ou faire marcher ses drivers de cartes 3D. Des choses comme ça, vous pourrez les trouver sur le wiki. Et enfin, il y a des forums web. C'est un média avec lequel je ne suis pas très familier, mais pas mal de gens aiment beaucoup ce principe de forum web et le préfèrent à des mailing lists en termes de communication. Bon, je pense que si vous avez un problème, il faut d'abord aller voir ce qui s'est déjà passé dans les forums et dans les mailing lists, et ensuite poser votre question sur l'un ou l'autre de ces médias. À vous de choisir. Et enfin, une chose que vous pouvez essayer de faire, c'est partager ce que vous avez appris. C'est-à-dire que si vous-même vous résolvez votre problème, vous pouvez communiquer la façon dont vous l'avez résolu à des gens sur une mailing list ou à des gens sur un forum web, ou éventuellement chercher si quelqu'un a eu, ce problème et ne l'a pas résolu. Vous pouvez lui laisser une petite réponse dans la mailing list ou sur le forum, et comme ça, ça permet de contribuer un petit peu plus à l'espèce d'entraide qu'il peut y avoir entre les utilisateurs de Debian et les développeurs aussi. Enfin, si vous êtes encore plus motivé, vous pouvez carrément aider Debian dans son développement. Donc, vous pouvez déjà, si vous savez programmer, si vous avez envie d'aider à corriger des bugs, faire des choses comme ça, vous pouvez essayer déjà d'identifier des problèmes que vous avez eus et que vous seriez capable de résoudre. Pour ça, vous pouvez faire une recherche dans la base de données de bugs. Vous pouvez éventuellement les corriger si vous y arrivez. Parfois, il se peut qu'il y ait deux problèmes qui soient exactement les mêmes dans la base de données de bugs et que les gens qui ont rapporté le premier bug et le deuxième bug ne soient pas au courant l'un de l'autre. Et donc, rien que dire à la première personne, eh ben, ce problème, c'est le même problème que dans le bug numéro tant. Eh ben, ça peut aider parfois à déverrouiller un problème et contribuer à le résoudre. Donc il ne faut pas forcément savoir programmer ou être un bidouilleur fou, même si on a certainement besoin de programmeurs et de bidouilleurs fous aussi. Enfin, il y a des tâches que je qualifierais de plus horizontales, c'est-à-dire qui ne concernent pas forcément le développement d'un paquet précis de haut en bas, mais plutôt qui traitent de tous les paquets, notamment de la traduction. La documentation des paquets est souvent traduite en français, mais certainement pas complètement. Donc c'est des tâches qui sont faites par des équipes de traduction, donc, qui ont une mailing list aussi sur list.debian.org que vous pouvez trouver. La documentation n'est pas la seule chose à traduire. Il y a aussi le site web qui est sans cesse en train de changer et donc qui nécessite de nouvelles traductions. Il y a des pages qui ne sont pas traduites sur le site web, notamment de la documentation qu'il faut aussi soit traduire complètement, soit simplement relire. Ou si vous trouvez des erreurs, si vous trouvez de meilleures formulations pour certaines pages, n'hésitez pas aussi à contribuer si vous le voulez. Vous pouvez aussi écrire de la documentation, donc pas seulement la traduire. Mais si vous vous rendez compte qu'un de vos logiciels que vous utilisez n'a pas de documentation, ben vous pouvez écrire une petite page de manuel pour cette documentation, la contribuer à la personne qui s'occupe du paquet, et s'il la trouve convenable, si vous corrigez les éventuelles remarques qu'il peut faire là-dessus, ou même si elle est géniale dès le début, et ben il va finir par mettre votre documentation dans le paquet. Enfin, il y a aussi des petites tâches, par exemple de design, qui peuvent être importantes. Par exemple, moi je rêverais que quelqu'un installe tous les programmes de Debian un après l'autre, et lorsqu'il n'y a pas d'icône pour le programme, soit il trouve une icône qui lui correspond dans la banque d'icônes qui existe, soit il va en dessiner une. Ce qui fait qu'après, dans le menu d'installation de Debian, il y aurait une icône pour tous les programmes, et pas seulement un nom. Vous pouvez aussi écrire ce qui s'appelle des fichiers .desktop, pardon. Ces fichiers sont des fichiers qui aident le système de packaging à installer le programme dans vos menus. Parfois, vous installez un paquet et malheureusement, il ne s'installe pas dans votre équivalent du menu démarrer. Vous ne savez pas le nom de l'exécutable à lancer. Pour ça, un fichier .desktop, ça permet de créer tout seul une petite entrée dans le menu, dans le bon sous-répertoire, dans le répertoire jeu ou dans le répertoire Internet. Tout ça, c'est des petits travaux qui se rapprochent souvent de la qualité, mais c'est pas forcément l'équipe qualité qui va s'en charger, au contraire, parce qu'elle a déjà beaucoup de travail à côté. Et c'est des choses auxquelles n'importe qui peut participer. Il faut pas avoir besoin forcément de grosses connaissances en informatique. Souvent, justement, les gens qui ont de grosses connaissances en informatique sont pas capables de dessiner une icône. Donc c'est des choses pour lesquelles on a besoin d'autres gens et pas seulement des informaticiens. Voilà, j'en ai fini avec la présentation du projet. Il va peut-être y avoir des questions. Après moi, ce sera le tour de Christian de vous présenter un petit peu les nouveautés qu'il y a dans la nouvelle version de Debian. Et si vous voulez accéder à ces slides, notamment si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les adresses web, vous pouvez trouver la présentation à l'adresse qui est écrite en bas. Voilà, merci.